L'actualité des Alpes du Sud, Patricia Granet-Brunello, réélue maire de Digne-les-Bains.
Les Dinois ont largement donné vainqueur la sortante après plus d'un an d'atermoiement judiciaire. Entre les deux tours, la candidate d'hiver gauche soutenue par le PS local a plus que confirmé son avance. Réaction dans ce journal.
Le Paris-Briançon reprend du service.
9 mois à quai suite à un chantier. Il est parti hier soir de la capitale pour rejoindre ce matin la ville fortifiée de Vauban.
Et on parlera budget mardi au sein du conseil départemental des Hautes-Alpes.
Premier budget de cette nouvelle mandature, un budget qui augmente de 3,5%. 84 millions d'euros iront à la solidarité, 60 millions aux investissements.
Et ce week-end, on skiait un petit peu partout dans les Alpes du Sud.
Et notamment à Puy-Saint-Vincent, une station qui a dû recruter pour contrôler les passes sanitaires. Et puis à Montclar, on compte bien faire la fête des 50 ans de la station. Elle avait été repoussée en début d'année, suite bien sûr à la crise sanitaire. Côté ciel, c'est plutôt doux aujourd'hui.
Oui, soleil bien présent sur les Alpes du Sud, soit sur les Alpes ou les Alpes de Haute-Provence. Il brille généreusement du matin jusqu'au soir. Alors, il y a quelques bancs de fins nuages d'altitude qui traverseront par moments le ciel alpin, mais rien de bien grave. Température maxi qui gagne quelques degrés par rapport à la veille. Comptez en général entre, pour les maxi, 8 et 11 degrés sur les Hautes-Alpes et pour les Alpes de Haute-Provence, de 9 jusqu'à 13 degrés. La une de l'actualité politique ce matin avec Patricia Granet-Brunello qui est réélue maire de Digne-les-Bains.
Après plusieurs mois d'atermoiement judiciaire, des recours et des appels, les Dinois se sont clairement exprimés à l'issue de deux tours. En 2020, seulement 3 voix d'écart séparaient la maire sortante de son opposant de droite, Gilles Chalvet. 2021, les Dinois ont nettement remis sur son fauteuil d'édile Patricia Granet-Brunello. Si au premier tour, la candidate d'hiver gauche soutenue par le PS local arrivait en tête avec 43,46% des voix. Hier, c'est avec 48,14% des suffrages qu'elle s'est imposée dans les urnes. 2817 voix, 353 de plus que Gilles Chalvet, 6 points de plus dans les pourcentages. 9 bureaux de vote sur les 12 ont fait ressortir grande gagnante, donc Patricia Granet-Brunello. Alors forcément, hier pour elle, après une campagne qu'elle dit éprouvante, elle se disait soulagée et prête à se remettre au travail.
Un grand, grand soulagement et puis une grande reconnaissance vis-à-vis des Dignoises et des Dignois de nous avoir fait élire et d'avoir justement dépassé tout ce qui a pu se passer dans cette campagne pour aller tous ensemble vers, je l'espère et je le souhaite et je ferai tout pour plus de sérénité, pour une ville épanouie, une agglomération épanouie, pour que on reprenne enfin un rythme de fonctionnement qui aille vers l'avant, vers le progrès et vers la lumière. Je pense que beaucoup de Dignois ont aussi compris quand même que on se bat sur les idées. On se bat pas sur des choses qui ne sont pas rationnelles, quoi. Mais je pense qu'il y a une notion d'honnêteté, d'intégrité, des choses comme ça aussi. Enfin, où moi, ça me fait du bien parce que c'est ça qui nous a porté. Quand on souhaite être élu, on n'est pas là pour soi-même, on est là pour les autres. Et je souhaite vraiment du fond du cœur que dans les mois et années qui viennent, ça soit ça, qui soit le leitmotiv dans cette ville.
Le leader de Terre Dinoise, Devoir d'agir, candidat de droite Gilles Chalvet, engrange donc un peu plus de 42% des suffrages. Le résultat de ces urnes, il le respecte, mais le ton est déjà donné. Il représentera l'opposition, car dès la prononciation des résultats, Gilles Chalvet critiquait vertement la liste gagnante qui aurait usé, selon lui, de tous les stratagèmes. Une campagne de caniveau, c'est ce qu'il dit, qui n'aurait pas incité les gens à voter.
J'étais victime de harcèlement, d'insultes, d'invectives et de diffamation de la part de l'équipe adverse, et surtout les deux derniers jours, ça a été très violent. Et avant, il y a eu des tracts de diffamatoires permanents. Voilà, je le regrette. Je pense que au niveau d'une ville comme Digne-les-Bains, on aurait pu débattre davantage sur les idées. Et là, visiblement, en face, on avait des gens qui étaient prêts à tout pour garder leur poste. Me faire passer pour ce que je suis pas, défendre, me positionner sur une entité politique où je suis pas, tout ça, c'est regrettable, si vous voulez. Mais bon, je remercie Sophie Vaginet, David Géant, et puisque en partant du Nord au Sud, et Camille Galtier. Je remercie Renaud Muselier de la confiance qu'il a mis en moi. Je remercie toute mon équipe et je remercie tous les gens qui ont voté pour moi. Donc moi, je reste positif. Voilà, je déplore simplement pour l'avenir de la ville qu'on continue avec les mêmes alors que la ville coule et qu'on n'est pas sur une bonne pente.
Représentant les forces citoyennes, le PRG, le PC et Europe Écologie Les Verts, Geneviève Primitera n'a pas su contredire la tendance. Elle prend la 3e place du scrutin avec 9,76% des voix. Elle sera ainsi la seule de sa liste, Unie pour Digne, à gagner un siège au conseil municipal et à Provence-Alpes Agglomération. Une candidate qui ne s'est pas imposée dans la sphère de gauche. Entre les deux scrutins, Geneviève Primitera a perdu 313 voix en passant de 884 à 571, qui se sont certainement donc reportées sur Patricia Granet-Brunello. Il s'agit là d'un vote utile pour Geneviève Primitera, destiné uniquement, selon elle, à faire barrage à la droite de Gilles Chalvet.
Je respecte le vote des Dignois qui ont donc renouvelé Madame Granet. Et puis, nous, je pense que ma liste a souffert du vote utile. Ce que je regrette un peu, je pense qu'on a voté pour éliminer le docteur Chalvet, donc c'est plus un vote contre que pour. J'aurais espéré que les électeurs qui nous avaient fait confiance l'auraient maintenu pour le second tour. Bon, ça n'est pas le cas. Maintenant, nous, on a pu constater que des électeurs qui étaient venus voter au premier tour ne sont pas venus voter au second tour et que d'autres électeurs se sont déplacés. Donc c'est un peu compliqué de faire une analyse plus fine que ça, mais je pense qu'on est victime quand même du vote utile.
Alors si Gilles Chalvet estime que la campagne n'a pas incité à voter, les Dinois se sont toutefois un peu plus mobilisés entre les deux tours avec une participation en hausse de 2 points. Sur les 10 812 personnes inscrites sur les listes électorales, 5 980 ont voté, soit un taux de participation de 55,31%.
Et après 9 mois de chantier, le Paris-Briançon reprend enfin du service.
9 mois d'arrêt pour travaux forcés, du coup le train de nuit était à quai depuis tout ce temps. Pour les voyageurs, pas d'autres alternatives à part des bus de substitution et 12 heures de voyage. Ces mésaventures ne seront désormais plus qu'un souvenir puisque ce dimanche, le train a repris du service. Son grand retour s'accompagne notamment d'une rénovation de toutes ses voitures. Par ailleurs, le Paris-Briançon revient s'inscrire dans les 4 trains nocturnes français du mois de décembre. Autre bonne nouvelle dans l'actualité, les 14 000 communes forestières de France n'auront pas à payer plus cher de contributions financières à l'ONF, un plan qui était discuté depuis la fin de l'été. Le gouvernement voulait imposer une contribution de 7 500 000 euros en 2023, 10 millions en 2024 et 2025. Finalement, l'État fait marche arrière. En contrepartie, il demande quand même aux communes forestières des efforts pour développer les contrats d'approvisionnement des entreprises de la filière. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, elles sont 145 communes forestières, 100 dans les Hautes-Alpes.
Et tiens, dans les Hautes-Alpes, on parlera à gros sous lors de la plénière de ce mardi.
Et oui, ce sera le moment de débattre du budget, un budget entre ambition et réalisme, selon la majorité. Premier budget sous cette nouvelle mandature de 256 300 000 euros, 3,5% de plus par rapport à 2021. Pourquoi ? Eh bien parce que les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, les recettes sont dynamiques avec une partie de la TVA qui entre dans les caisses après la suppression de la taxe d'habitation. Mission principale de la collectivité, les solidarités sont au cœur de ce budget avec 84 millions d'euros axés autour de l'enfance, la famille, l'insertion et la dépendance. L'investissement n'est pas en reste en injectant 400 millions d'euros sur tout le mandat au travers d'un plan pluriannuel d'investissement. Pour 2022, l'enveloppe est de 60 millions d'euros, comme le détaille Patrick Ricoux.
60 millions d'euros de prévus pour l'investissement sur nos infrastructures, sur nos routes, mais aussi sur de nouvelles politiques auxquelles le département entend donner une plus grande ampleur. Les nouvelles mobilités, c'est encore 1 million d'euros qu'on met sur la rénovation du ferroviaire. C'est aussi des mobilités alternatives autour de pistes cyclables, autour de nouveaux modes de déplacement. Également une part belle pour tout ce qui relève de l'énergie, tant par la rénovation énergétique de nos bâtiments que par l'accompagnement de la rénovation énergétique des logements sociaux. Bref, un département qui investit, rapporté au nombre d'habitants, on est certainement le département qui investit le plus en France, mais c'était bien l'objectif que nous étions fixés, de conserver à la collectivité départementale un peu son rôle d'aménagement du territoire et de solidarité, tant avec nos concitoyens, mais aussi avec nos collectivités locales, puisque là aussi, des montants significatifs pour accompagner l'ensemble de nos collectivités dans leurs projets d'investissement, d'amélioration des services à la population, d'amélioration des conditions d'attractivité de ce département.
Même si ce n'est pas la priorité de la mandature, le désendettement progressif se poursuit avec un encours à la fin de 2021 de 174 millions d'euros. Selon le département, la dette devrait baisser de 5 à 10 millions l'année prochaine. Et finalement, notez qu'en parallèle du vote du budget 2020, une autre délibération sera à l'ordre du jour, l'adoption d'un avenant maintenant de 1 200 000 euros pour financer la rocade de Gap. La rocade qui poursuit son chantier. Premier avancement majeur, l'opération du secteur de Varcy qui connecte la section centrale à la future section nord sera achevée avant la fin du mois. Un nouveau rond-point va voir le jour sur la Nationale 85. La réalisation de la section centrale, quant à elle, se poursuit avec une mise en service complète prévue pour 2024. Des études d'opportunité de la section nord sont engagées pour début 2022 afin de relier la rocade à la Nationale 94 vers Briançon. Quant à la section sud, souvenez-vous, elle a fait l'objet d'une concertation publique. Eh bien, la population a opté pour la variante numéro 3, dite intermédiaire, portée par la municipalité et confirmée par le comité de pilotage de mardi en préfecture.
Et oui, Cyril, ce week-end, on skiait un petit peu partout dans les Alpes du Sud.
Avec grand classe, et notamment à Puy-Saint-Vincent, alors que la station avait voulu jouer la montre en annonçant une ouverture pour le 16 novembre. Finalement, c'est ce 11 décembre que les portes se sont ouvertes avec l'or blanc présent en quantité. L'attente des skieurs était bien là, alors que les remontées mécaniques sont restées à l'arrêt l'an dernier. En tout cas, l'édile de la commune, Marcel Chaud, le constate, malgré l'instauration du pass sanitaire. Il a toutefois fallu s'organiser, mais l'adaptation est bien le maître mot.
Nous, on est prêts pour toutes les obligations qui ont été programmées. L'année dernière, on avait déjà programmé un certain nombre de choses de façon à pouvoir ouvrir. Donc cette année, on est prêts aussi. La problématique de fond, c'est que le pass sanitaire, c'est quelque chose qui est... On ne peut pas contrôler l'identité des personnes, donc ce ne sera quand même pas évident de contrôler le pass sanitaire. Mais bon, s'il faut contrôler le pass sanitaire, on a prévu dans la programmation et dans l'organisation de la station des personnes en plus qui sont embauchées en supplément pour faire ces contrôles.
Notez que la station envisageait de mettre en place des tests antigéniques pour les saisonniers de la station qui sont primo-vaccinés. De nombreux événements sportifs vont se dérouler à Puy-Saint-Vincent, notamment en janvier avec la Coupe d'Europe de Border Cross. Et puis vous ne l'attendiez plus. Finalement, la date est tombée. Après de nombreux revendissements, la grande fête des 50 ans de la station de Montclar se déroulera le week-end du 18-19 décembre. Prévue initialement en janvier dernier, entre la crise sanitaire et la fermeture des remontées mécaniques, l'événement avait dû être annulé.
Alpes 1 Sport. Avec le bon week-end de Terence.
Terence Tchiknavorian pour cette dernière étape de Coupe du Monde française de ski cross. Le bas alpin était le seul tricolore à se hisser sur le podium. Vainqueur de la première manche samedi, l'athlète de 29 ans s'est emparé hier de la seconde position, juste derrière le Suisse Alex Fiva. En signant son 4e podium en Coupe du Monde, Terence Tchiknavorian peut désormais revêtir le maillot du leader du général. Du côté féminin, malheureusement, aucune Française n'a réussi à monter sur la boîte avec une 7e position en deçà des ambitions de la Walpine, Alizé Baron, qui quitte la piste de Val Thorens sans être montée donc sur le podium. Lui, il est considéré comme l'un des meilleurs sprinteurs sur cette Coupe du Monde. Il était ambitieux, il visait la victoire. Malheureusement, cela n'aura pas suffi pour Richard Jouve afin de se hisser sur la première marche du podium. Le haut alpin décroche dans le sprint la 5e place. Il n'aura pas démérité. Sur le podium final à la 3e place, le Britannique Andrew Young. Juste devant lui, le Russe Alexander Bolshunov qui est arrivé 2e. Et c'est l'Italien Federico Pellegrino qui remporte le sprint.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.